Usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com. Usineonline.com présente.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak.
Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé.
On est des humains.
C'est ça qu'on est, hein.
On est des humains.
Vas-y, dis-le, Louis.
On est des humains.
Oui, Jean-François.
Nous sommes dans une guerre hybride.
Moi, je me fiche éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens.
Nous sommes en guerre.
Oui. Oui, tout ça, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Hélas, est-ce qu'on peut dire que ça ne fait que commencer? On ne va pas épiloguer là-dessus. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Toutes les guerres, vous savez, il y a des guerres à tous les étages. Mais c'est la vie, ça. C'est la vie. Les rapports de force, les affrontements, hélas, c'est important et c'est là. Et là, nous allons parler des mamans louves. Parce que les mamans louves, l'association des mamans louves, on va vous en parler, ont reçu des témoignages assez hallucinants d'un certain nombre de parents d'élèves sur comment leurs enfants, qui ont 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, eh bien, comment ils reçoivent et ce qu'on leur transmet dans l'éducation sexuelle. Oui, oui, c'est la désinstruction nationale, c'est l'éducastration nationale, c'est quoi? On va en parler avec les mamans louves. Ensuite, eh bien, on va parler de quelque chose d'assez étonnant. C'est le communiqué officiel du laboratoire Pfizer sur leur vaccin. Communiqué officiel qui dit, attention, oui, il y a des effets indésirables, peut y avoir des effets, et des effets accrus. Et rappelez-vous, quand on disait ça il y a encore un an et demi, mais on était les conspis, c'était les sulfureux de l'extrême, etc. Aujourd'hui, rapport Pfizer. Et les perles, les bravos, le délire effectivement, tragique, sur l'auberge espagnole des fantasmes en ce qui concerne l'hôpital de Gaza en particulier, et la guerre israélo-palestinienne ou israélo-arabe en général, vraiment où chacun y va de son délire, et ça suffit comme ça. Et puis nous allons recevoir, eh bien, Patrice Franceschi, qui avec deux autres auteurs a écrit Le goût du risque. Le goût du risque, et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le risque, hélas, ça existe. Et on en a besoin, ça fait partie de notre vie. À tout de suite.
Usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com. Usineonline.com présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Dans tous mes états, je ne sais pas, jugez. Une infirmière de l'éducation nationale a des élèves de CM2. Hein, je rappelle, CM2, c'est 8, 10 ans, 8, 11 ans. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. Ou alors, on peut faire le sexe dans les fesses. Toujours une infirmière d'éducation nationale en cours, à l'école, à des élèves de CM2. Normal ? Quand même, hein, on peut se poser des questions, on va s'en poser, avec notamment les mamans louves qui sont parties dans cette affaire.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le mont.
Oui, c'est tellement bien, c'est Pierre Perret, évidemment, cette chanson, elle a déjà percé deux générations, sinon trois. Ça, c'est bien, mais quand on commence à dire des choses en matière d'éducation sexuelle, parce que c'est devenu évidemment extrêmement important, que les enfants soient absolument éduqués, instruits en matière d'éducation sexuelle. Et voilà, par exemple, un exemple qu'ont reçu, par exemple, les mamans louves, des parents d'élèves, puisque évidemment les enfants reviennent à la maison, leur racontent. Christelle Comé, bonjour.
Bonjour André,
bonjour.
Merci de nous recevoir.
Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes vice-présidente des mamans louves. Vous avez reçu plusieurs témoignages de ce genre ?
Absolument, oui. Depuis l'année dernière, en fait, on a énormément de familles qui nous contactent des suites de ce que l'on appelle dérive lors de séances d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires de la République, notamment sur des classes de primaire.
Oui, c'est ça, notamment sur des classes de primaire. Alors rappelons simplement à nos auditeurs, ces cours-là, ça a commencé il y a longtemps, il y a combien de temps? Vous le savez, Christelle Comé?
Oui, oui, tout à fait. En fait, ces séances sont fixées dans le cadre d'une loi qui n'est pas du tout récente, puisqu'elle date de 2001, qui oblige trois séances d'éducation à la sexualité depuis l'école élémentaire.
D'accord.
Ça a été rappelé par notamment trois circulaires, la première en 2003, ensuite en 2018 et puis en 2022 avec le précédent ministre de l'Éducation nationale, voilà, qui en avait fait sa priorité absolue que de renforcer l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Voilà.
Et alors justement, parce que moi je veux bien éducation à sexualité, effectivement, mais sexualité, homme, femme, les attributs, etc. Quand ça a commencé à dire, allez, par exemple, ce qu'on vient de dire, quoi, caresser délicatement les testicules, faire le sexe dans les fesses et autres joyeusetés pour des enfants de 8-9 ans. Quand est-ce que ça a, je ne dirais pas dérivé, soyons neutres pour le moment, mais quand est-ce que ça a commencé à entrer dans ce genre de détails?
Pas tout à fait précise. Les informations que nous avons, c'est que ça a commencé à peu près depuis 2017. D'accord.
D'accord.
Il y a des professionnels de la santé et de l'enfance, somme toute, qui sont des sommités reconnues dans le monde de la pédopsychiatrie et de l'enfance, qui ont dénoncé justement l'arrivée de ce qu'on appelle dérive, donc auprès d'enfants très jeunes qui se sont vus livrer donc la sexualité adulte au sens strict que nous on l'entend, hein, voilà. Nous, depuis l'année dernière, eh bien, on a vu une accélération depuis la pression qui a été mise par le ministère pour effectivement que les séances d'éducation à la sexualité soient effectives. Et on a été contacté par malheureusement trop de familles qui ont vu leurs enfants revenus traumatisés de ces séances, puisque alors j'espère qu'il n'y aura pas d'enfants qui écoutent la radio, puisque
non,
les
non.
propos sont quand même très, très
allez-y,
graves.
Dites-nous, oui.
Voilà, donc on parle de effectivement sodomie, de fellation, d'éjaculation, de caressage de testicules et autres joyeusetés à des enfants, donc avec des propos qui sont déjà, disons-le clairement, pas en capacité d'entendre ce genre de choses. Ça a des conséquences traumatiques chez eux. La preuve, ils reviennent chez eux absolument traumatisés, avec parfois des suivis psychologiques qui doivent être engagés par les parents. Et puis, ce qui nous inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible avec les établissements où ces dérives sont intervenues.
C'est-à-dire,
voilà, souvent...
oui, allez-y. Parce que non, juste un mot, Christelle Comé. Les parents réagissent, ok, ils vous signalent la chose, mais est-ce qu'ils ne vont pas voir les responsables d'établissement en disant, attendez, c'est quoi ces cours d'éducation? Et ils ne s'adressent pas à l'établissement lui-même?
Si, bien sûr, la plupart du temps, c'est ce qu'ils ont fait. Mmh. Et où je vous dis, nous, où on place notre inquiétude, c'est justement par cette fermeture de dialogue où on a tout de suite les établissements, dans la majorité des cas, qui se dédouanent vers la chose suivante, qui est de dire, mais les enfants ont posé des questions et nous avons fait qui répondre. Alors nous, ce qu'on dit très clairement, et ça c'est factuel, et c'est ce qui devrait être rappelé et enjoint à tous les recteurs d'académie pour que ça soit redescendu sur tous les établissements scolaires et leur personnel, c'est que les circulaires sont clairs. On ne doit pas aborder la sexualité stricto sensu à l'école élémentaire. Ce qui est dit dans le cadre collectif ne doit pas revêtir donc de l'intime. Mmh. Voilà, et pouvoir être entendu par tous. Les contenus doivent être adaptés à l'âge des enfants et le projet éducatif, qui est appelé projet éducatif, doit être explicité auprès des familles en amont pour qu'il n'y ait pas de méprise de ce qu'est cette éducation à la sexualité. Mmh. Et quand on a donc des réponses qui sont faites, je dis bien attention, à l'ensemble d'une classe, parce que évidemment il peut y avoir des questionnements précoces de la part d'enfants,
bien sûr.
Doivent trouver un espace justement de dialogue individuel pour ne pas effracter, ce qui veut dire traumatiser le psychisme de tous les enfants qui n'ont pas demandé à entendre ce genre de choses. Voilà. Et donc là, on fait en fait de la masse, on répond à des questions qui consistent à dire qu'on peut sucer le pénis d'un garçon ou on peut sucer le vagin d'une fille, on peut pratiquer le sexe dans les fesses, et en fait tout ça n'a absolument pas de sens. Et aujourd'hui, Ce qui est également très grave, André, c'est que nous avons sollicité le ministère de l'Éducation nationale, donc Saint-Dié et son prédécesseur, à l'arrivée de Gabriel Attal. On a relancé justement les dossiers pour lesquels nous sommes mandatés par ces familles à agir. Oui. Personne ne veut nous répondre. Et j'ajouterai un point qui me semble essentiel et un éclairage à faire à tous vos auditeurs qui ont entendu récemment Madame Rossignol, qui est une sénatrice, oui. qui était chargée à l'époque...
Laurence Rossignol, oui.
Voilà, tout à fait, qui minimise le nombre de cas. Donc je voudrais rappeler à tous les auditeurs qu'effectivement, alors pour être précise, à ce jour, on porte 5 dossiers de famille, ce qui veut dire 5 établissements avec 5 classes, avec en moyenne 30 élèves. Donc ce n'est pas 4 enfants. Et quand bien même ça serait 4 enfants que l'on soit venu traumatiser dans le cadre de ces séances, cela ne doit pas être acceptable ni être minimisé, et cela doit être dénoncé et faire l'objet de sanctions et de rappels à ces personnels qui sont sortis du cadre.
Et pour le moment, personne ne vous a répondu du point de vue du ministère de l'Éducation nationale ou des recteurs, non, rien, enfin des principaux.
Absolument pas, on a écrit aux établissements scolaires, on a écrit au rectorat concerné, on a écrit au ministère de l'Éducation nationale, c'est silence radio, alors qu'hier, avec Pape Ndiaye, c'était la priorité absolue de dispenser de ces séances, alors qu'on a bien d'autres choses à faire, rappelons-le, puisque les enfants ne savent pas lire, écrire et compter.
Il y a quelques priorités, peut-être, hein, qu'il s'agirait de mettre un peu avant celle-là. Juste, Christelle Comé, pour être précis, dans le cadre de l'école, hein, on l'a quitté, nous, depuis assez longtemps, qui dispense cet enseignement? Je parle cet enseignement qui dit, qui va dans les détails que vous avez cités, que j'ai cités aussi. Qui dispense cet enseignement?
Alors, cela peut être dispensé par plusieurs personnes. Cela peut être les infirmières de l'Éducation nationale, qui souvent sont des infirmières de collège qui viennent intervenir sur les écoles élémentaires ou primaires. Oui. Ça peut être également depuis Marlène Schiappa en 2018 qui a ouvert donc ses interventions aux associations agréées qui peuvent intervenir également.
Ah oui, vous voulez dire qu'une représentante d'association peut venir dans l'école primaire faire un enseignement ou enfin faire un...
Absolument, voilà. c'est le cas notamment du planning familial, qui somme toute est rempli d'idéologies qui sont déversées à l'intérieur de l'école. Voilà, donc bon, il y a eux, il y en a d'autres, il y en a de très très bien, évidemment. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas heureusement sur toutes les écoles, mais on voit quand même une généralisation de ces dérives. Et pour terminer, donc en ce qui concerne les possibles interventions... Oui. Cela peut être également les personnels éducatifs quand ils veulent bien le faire, quand ils ont le temps effectivement de le faire. Et puis, il faut dire aussi que ces 3 séances d'éducation à la sexualité qui sont prévues de manière effective chaque année, mais on aborde également ça de manière, ce qui est appelé transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, à travers notamment des cours d'éducation civique, des cours de SVT, vous voyez?
Ah oui, vous voulez dire qu'on peut déborder, sur l'enseignement d'éducation sexuelle stricto sensu et le prendre par le biais civique, etc., etc., c'est ça?
On peut également le faire à travers l'art, on peut le faire à travers la littérature, et c'est ce qui, parfois, est fait. Tout à fait.
D'accord. Et alors, pour le moment, vous avez eu quand même, vous dites, plusieurs dizaines de plaintes, vous avez eu des plaintes de famille, vous avez... Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas, juste pour me faire non pas l'avocat du diable, mais l'avocat de ceux qui disent oui, mais c'est pas si grave que ça, peut-être l'avocat de Laurence Rossignol, justement, ou autre, est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui prennent ça en disant oui, ça amuse, et ça leur passe au-dessus de la tête? Est-ce qu'on peut pas dire oui, mais enfin, au fond, on leur dit ça, mais ça n'a que peu d'importance et qu'en en fait, ils reviennent en rigolant.
Alors, vous savez, ceux qui vont vous tenir ce genre de propos, ce sont des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance en matière de développement de l'enfant. En fait, le développement de l'enfant, et ça aussi, ce sera bien que Mme Rossignol l'entende, il ne change pas. Qu'on passe des décennies ou des décennies, il y a des besoins qu'il faut remplir, il y a bien des sûr. Étapes, des prérequis par lesquels passent les enfants pour leur construction. Quand on vient devancer les questionnements des enfants, c'est une effraction psychique. Quand on vient tenir des propos crus sur la sexualité adulte alors qu'ils ne se posent pas encore la question, c'est une effraction psychique qui constitue des traumatismes. Et ça, les professionnels de l'enfance pourront le confirmer. C'est pour ça que minimiser l'impact que cela peut avoir, c'est absolument indigne, tout comme il est indigne de la part de l'État Et là, Madame Rossignol, par contre, a agi correctement. Par exemple, pour venir lutter contre l'accès à la pornographie, il devrait y avoir des mesures, justement, qui s'imposent, des mesures législatives, des mesures réglementaires. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tombé dans un changement sociétal où, en fait, on vient donner maintenant la responsabilité aux enfants de pouvoir, en fait, s'adapter à une société qui plonge les enfants dans un univers hyper sexualisé et qui ne sont pas protégés ni par l'État, ni par des cours de prévention. Vous savez, les seuls cours de prévention qu'il faudrait faire, justement, ce sont des cours de prévention qui consisteraient à indiquer aux enfants les dangers d'Internet, sensibiliser également les parents sur les dangers des contenus que peuvent rencontrer leurs enfants pour renforcer cette vigilance. Il faudrait également...
Oui, une vraie éducation, d'ailleurs, il faudrait une éducation, je vais vous dire, des parents autant que des enfants.
On va vous parler d'autre chose. On va vous dire, il y a la lutte contre la pornographie, ok, mais alors on ne va pas donner du contenu pornographique pour lutter contre la pornographie, c'est absolument absurde. Mais on va vous dire aussi, il faut lutter contre les violences sexuelles, sexistes et les discriminations. Sauf que quand on va banaliser la sexualité adulte dans le monde de l'enfant, on ne lui permet absolument pas de pouvoir se prémunir des prédateurs. Puisqu'on lui dit qu'il est normal, par exemple, de pratiquer le sexe dans les fesses. Donc face à un prédateur, l'enfant se dira que c'est normal. Au même titre que celui qui est abusé, qui est victime d'inceste, quand il va entendre ça, il ne trouvera pas d'espace pour dire.
Et ce sera la norme, et c'est pas ça. Oui, bon, ça, enfin, ça sera pour eux la norme, et c'est quand même quelque chose d'assez grave quand on a 8 ou 9 ans ou 10 ans. Christelle Comet, merci. On va suivre ça, et évidemment, on fera appel à vous, parce que là, ça pose vraiment problème, et ça n'a rien à voir avec la liberté ou la liberté de se comporter. Un enfant, c'est un enfant, et on le sait avec toutes ces affaires de pédocriminalité dont on va parler très 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 bientôt d'ailleurs. Merci.
Oui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Christelle Comet. Je rappelle que vous êtes vice-présidente des Mamans Louves. En tout cas, continuez à réagir sur le Facebook, sur YouTube de Sud Radio et puis bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com. Usineonline.com présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Voilà, tous vaccinés, tous protégés, tout allait bien dans le meilleur des mondes et on savait qu'il y avait quelques petits soucis, mais ça allait très bien. Et puis voici que sort un communiqué officiel de Pfizer, des laboratoires Pfizer, communiqué officiel qui est sorti il y a un mois. Écoutez, on va en parler, c'est très intéressant.
Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
N'avoue jamais n'avoue jamais que tu aimes.
Oui, n'avoue jamais. Je ne sais pas s'il faut avouer ou pas qu'on aime. Mais en revanche, Pfizer. Covid, les vaccins, etc. Eh bien là, il avoue quelque chose qu'il n'avouait pas il y a si longtemps que ça. Un communiqué officiel, voilà, utilisation, information de sécurité, indication que Comirnaty, vous savez, Comirnaty, c'est le vaccin Covid ARNm, vaccin approuvé pour l'immunisation active afin de prévenir la maladie à coronavirus. Très bien, alors on donne les choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce que dit Pfizer, hein, je reprends mot pour mot, les vaccins Covid-19 à ARNm autorisés ou approuvés montrent un risque accru. Alors là, ça, c'est un mot nouveau, on ne l'employait pas. Un risque, il disait, oui, il y a des risques, des allergies, un risque accru de myocardite, inflammation du muscle cardiaque, et de péricardite, inflammation de la muqueuse à l'extérieur du cœur, en particulier dans la première semaine suivant la vaccination. Pour Comirnaty, le risque observé est le plus élevé chez les hommes de 12 à 17 ans. Mais attendez, attendez, attendez. On disait bien que les hommes de moins de 30 ans, le public était à très peu de risque de développer les formes de graves de la maladie. Alors, quand il y avait la balance bénéfice-risque, on vous disait, vous voyez, pendant 2 ans et demi, mais tout va bien, oui, il y a des risques, mais le bénéfice est tellement grand. Rappelez-vous, à 2 doses, vous étiez tous vaccinés, tous protégés, etc. Aujourd'hui, eh ben, ce n'est plus du tout le même langage. Vous voyez, les effets indésirables, il y en a quand même beaucoup. Les effets secondaires, il y en a quand même beaucoup. Et ça pose problème, ça pose un problème le plus important. C'est encore une fois, moi, il ne s'agit pas d'être pro ou anti-vax. Il s'agit de dire et de répéter que ce qui est certain, tout le monde l'admet, si vous disiez ça il y a 2 ans, vous étiez un conspirationniste absolument extrémiste, mais là, que... Le problème, c'est que normalement, il faut un vaccin, et Dieu sait si on s'est fait tous vacciner, et c'est bien le vaccin, mais quand il empêche la maladie, il empêche que vous tombiez malade. Écoutez, un vaccin, on le sait depuis toujours, c'est ça. Et là, eh ben, on prend une dose, 2, 3 doses, et on retombe malade. Problème. Et puis, encore une fois, regardez la NSM, tous les 2 effets secondaires, et aujourd'hui, eh ben, Pfizer dit, attention, risque accru. Accru jusqu'à quel point, jusqu'où, eh bien, il y a ce problème-là qui est posé. Voilà, on voulait tous vous dire que comment la vérité vient au labo, eh bien, c'est une bonne chose, mais attention, enquête, vigilance, toujours.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu.
Viens chez moi, j'habite chez une copine. Merveilleux. Alors, vous savez qui a dit ça ? Eh bien, c'est Emmanuel Macron. Alors, j'habite chez une copine, mais oui, il habite en Europe, il habite dans l'Union Européenne, c'est formidable, il habite chez une copine dans l'Union Européenne. Et il dit, viens chez moi. Et voilà, il est en visite officielle à Tirana. Et il dit, écoutez, voilà, maintenant on va ouvrir l'Union Européenne. On va l'ouvrir, hein. On va aller très loin. Et il n'y a aucune raison qu'on reste à 27, surtout que l'Angleterre nous a quittés, hein, cette traîtresse, cette perfide Albion. Alors voilà, il dit à l'Albanie, ben venez. Et puis après, il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a le Kosovo, il y a la Macédoine du Nord, il y a le Monténégro et la Serbie. Donc voilà, là ça a été lancé, processus de Berlin, c'est Angela Merkel qui l'a lancé en 2014. Alors est-ce que tous ces gens-là vont venir ? Eh bien c'est très intéressant, si on arrive à intégrer les Balkans justement, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose, je ne sais pas. Il y a vraiment, vous savez, François Asselineau par exemple, il n'est pas d'accord du tout, il a fait un tweet là-dessus. Il dit, dit François Asselineau, population 3 millions d'habitants, 60% de musulmans, 16% de chrétiens, le niveau de vie est 3 à 7 fois en PIB intérieur à la France, les mafias, drogue, armes, prostitution, enfants, immigration. Voilà. Et d'autres personnes, effectivement, disent attention. Enfin, écoutez, franchement, c'est pas bien, là, ce que vous faites, parce que, comme dit notre président de la République bien-aimé, eh ben, plus on est de fous, plus on rit. Donc, ouvrons.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Seul tourment est mon unique.
Parole, oui. Et quelle parole? Qu'est-ce qu'on a eu comme parole depuis l'ouverture, depuis le premier massacre à Gaza, depuis le terrible accident ou incident ou agression ou à l'hôpital Al-Ahli de Gaza. Et ça s'est déchaîné. On en a parlé déjà hier. Ça s'est déchaîné par toutes les manières et de toutes les manières. Et ça permet vraiment un vrai délire. Il y a vraiment un délire. À un moment donné, on sait, mais quand on est loin, encore, on peut comprendre que des gens qui ont vu des femmes éventrées, qui ont vu des enfants égorgés, qui ont vu des enfants et un hôpital avec des enfants absolument massacrés, etc., etc. On peut comprendre. Mais nous, par exemple, quelque chose qu'il y a eu sur I24 News, le représentant de Corse Israël, de l'association Corse Israël, David Antonelli, a déclaré, et voici ce qu'il a déclaré, écoutez.
Je vous dirai honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi je me fiche éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas. Je crois qu'ils ont oublié certaines choses. Ils sont tous biberonnés à la même haine du juif.
Bon, écoutez, on peut penser ce qu'on veut et David Antonelli a absolument le droit de penser ce qu'il veut. Mais de dire à l'antenne, comme ça, de loin, je me fiche éperdument des 2 millions de Gazaouis, on se fiche éperdument de personne. On se fiche de personne. On se fiche pas du moins de bébises. Et si, de l'autre côté, effectivement, il y a des Palestiniens, il y a des Arabes, il y a des musulmans qui disent « je me fous absolument de ces Juifs, il faut qu'ils disparaissent », mais c'est la même chose, c'est ces discours qu'on ne peut plus entendre. Alors évidemment, on va empêcher personne de penser ce qu'il a à penser. Mais très sincèrement, les dire comme ça, ça n'a aucun sens. On l'a vu aussi, on sait aujourd'hui que l'hôpital, il y a un cratère devant, que l'hôpital Al-Ahli n'est pas détruit. Et au début, on parlait encore, vous voyez, c'est ça qui est terrible, de 600, 800 personnes, etc. Aujourd'hui, ben, sur les sources européennes et même des sources de Gaza, c'est 50 personnes. Et puis on dit, voilà, il y a juste un cratère devant. Alors, est-ce que c'est la fusée, etc. De toute façon, il n'est pas possible que des responsables politiques de chez nous, ou médiatiques ou autres, s'enflamment et en fait, démontrent quoi? Démontrent leur inconscient, hein. Ah, nous, on est contre Israël, les Juifs, on n'en a rien à foutre. Eh ben voilà, c'est eux, ces salauds qui ont fait de l'hôpital de Gaza. Les Gazaouis, ces salauds, il y a eu des égorgements, et moi, j'en ai rien à foutre des 2 millions de Gazaouis. Ces discours-là, c'est pas possible qu'ils continuent comme ça. Et on demande à chacun, surtout les responsables politiques, et les responsables d'associations, et les responsables médiatiques, de savoir jusqu'où, effectivement, ils doivent tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de dire n'importe quoi, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Et c'est vraiment le confort des abrutis, ça. Vous voyez, c'est pas possible. Quand on est loin, au moins, je peux comprendre des gens qui sont sous les bombes, je peux comprendre. Et je dis pas que j'explique, j'accepte, mais on peut comprendre. Mais que les gens qui sont loin, qui commencent à dire, oui, moi je me fous de ceci, oui, c'est la vérité israélienne, ils n'en savent rien, mais ils font ça pour leur petite propagande, leurs petits soucis électoralistes et leur fonds de commerce, ça, c'est pas possible.
Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va parler, tiens, de 49.3 avec Philippe Fabry qui sera notre invité. Et puis avec vous au 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio.
Usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com. Usineonline.com présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et on ne change pas les bonnes habitudes d'une équipe qui gagne. Je parle évidemment de l'équipe gouvernementale. Elisabeth Borne, attention, Born to be alive, va dégainer le 49-3 pour la 13e, 14e fois. On en parle tout de suite avec Philippe Fabry.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. T'as personne.
Cabrel, devant. Cabrel, évidemment, et ça continue encore et encore. Et oui, avec le 49-3, d'accord, d'accord. Oui, la première ministre Elisabeth Borne a engagé mercredi. Donc hier, la responsabilité du gouvernement par l'article 49.3 sur le volet recettes du budget 2024. Il s'agit du 13e exactement activé par la chef du gouvernement depuis son arrivée à Matignon. 13e 49.3, vous savez ce que c'est que le 49.3. On va s'en expliquer tout de suite avec Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry.
Bonjour André Berthoff.
Vous êtes historien du droit, vous êtes auteur de du président absolu, la Ve République contre la démocratie. On vous avait reçu à plusieurs reprises à ce propos. Et là, effectivement, d'abord rappeler quand même ce que c'est exactement que le 49.3.
Alors, le 49.3, c'est un article de la Constitution. En fait, c'est pas un article, c'est un alinéa dans l'article 49, le troisième alinéa, on dit 49.3, mais c'est pas un tiré, qui permet au gouvernement de faire, ou plutôt de n'avoir pas à faire voter un texte par le Parlement en engageant sa responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, le gouvernement dit « Voilà, j'engage ma responsabilité sur ce texte. Ça veut dire que si vous ne votez pas de motion de censure contre moi, pour faire dégager le gouvernement, donc, eh bien, le texte entrera en vigueur. »
Il passe.
C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, il passe.
Alors, écoutez, Philippe, écoutez, auditeur résistant de Sud Radio, écoutez ce que disait Elisabeth Borne.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie.
Eh bien, nous aussi, nous la remercions, Elisabeth Borne, nous la remercions. Philippe Fabry, au fond, vous venez très bien de définir la chose, c'est clair. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de motion de censure qui demande une majorité de députés ou pas.
Alors oui, la motion de censure, ça demande une majorité simple, mais une majorité des députés qui est extrêmement difficile à réunir, y compris quand on a un Parlement éclaté comme on a depuis un an. Même si, sur l'affaire des retraites, on a été le plus proche de la motion de censure qu'on a jamais été, depuis la seule qui a été votée sous la Ve République, qui était en 1962.
Oui, vous voulez dire qu'en fait, c'était la question que j'allais vous poser. Et la dernière motion de censure qui a été adoptée par le Parlement français, c'est depuis, vous dites, 1962 ?
1962, c'était la motion de censure qui visait en fait à s'opposer à la forme de coup d'État institutionnel qu'avait fait le général de Gaulle en tentant de faire un référendum constitutionnel avec un article qui ne lui autorisait pas. Ce que le président du Sénat de l'époque, Gaston Monnerville, avait qualifié de forfaiture, mais ce qui n'a pas empêché le Conseil constitutionnel de considérer qu'il y avait
ça allait. Mais en fait, Philippe Fabry, alors justement, parce que je dirais l'historien que vous êtes, est-ce que franchement, depuis quelques années, même peut-être avant Macron, mais disons, oui, parce que ça a été utilisé bien avant, est-ce qu'au fond, dans ce régime dans lequel on est, dans ce régime de présidence absolue, c'est votre propre titre de votre livre, est-ce qu'au fond, ce n'est pas l'exécutif qui gouverne par le 49-3, même s'il ne l'utilise pas tout le temps, l'exécutif est seul face au législatif qui est, allez, on ne va pas dire impuissant, on ne veut pas être méchant, mais enfin, ça passe et ça ne casse pas.
Alors c'est exactement ça, et en fait le problème est même encore plus profond, parce que dans un régime parlementaire, ça ne poserait pas de problème que le gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement, parce que c'est ce que fait continuellement tout gouvernement, puisque dans un régime parlementaire, le gouvernement est l'émanation de la majorité au Parlement. Donc c'est normal qu'il puisse se mettre en jeu. Le problème dans le système, et c'était encore le cas à l'époque où, vous en savez, on en a parlé beaucoup à l'époque de l'affaire des retraites, sous le gouvernement Rocard, il y avait eu énormément de 49-3. Mais à l'époque, Michel Rocard était une vraie personnalité, différente du président de la République. On sait qu'ils avaient des rivalités de personnes tous les deux. Et donc, c'était un chef de gouvernement et c'était bien Michel Rocard qui engageait sa responsabilité. Le problème dans le régime français actuel tel qu'il a évolué, qui va dans le sens de la Ve République, c'est que le vrai chef de l'exécutif, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République. Et donc, en fait, il n'y a aucune responsabilité réelle qui est engagée là-dessus, puisque quoi qu'il se passe, même si une motion de censure a été votée, le président de la République, lui, reste à sa place. Il n'a aucun problème. Et en fait, il envoie au charbon, si j'ai envie de dire. C'est pas Elisabeth Borne qui décide, j'engage ma responsabilité. C'est le président qui lui dit, bon, tu vas engager ta responsabilité sur ce texte parce que je veux que ça passe et je veux que ça avance. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est un gros problème. Dans un régime parlementaire, ça serait, il pourrait y avoir un 49-3, ça resterait un régime équilibré parce que le Parlement a son pouvoir. Là, oui, le fait que le président restera, ça efface tout effet.
Oui, mais attendez, ça c'est la constitution de la 5e République. C'est-à-dire que si un gouvernement est renversé, le président n'est pas renversé.
Voilà, le président n'est pas renversé, mais le problème c'est que dans la constitution de la 5e République, le président de la République a tellement de pouvoir dans les autres, dans les régimes voisins, j'ai envie de dire, où il y a aussi un chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État qui est à la tête du gouvernement. La reine d'Angleterre ou le président de la République italienne ou le président de la République allemande n'ont pratiquement aucun pouvoir. Le problème, c'est qu'en France, le chef de l'État est devenu le vrai chef du gouvernement. C'est lui qui préside le Conseil des ministres, notamment. Et donc, c'est lui le vrai chef de l'exécutif. Il y a un déséquilibre majeur.
Mais alors, justement, alors, Philippe Fabry, c'est intéressant, creusons un peu cela. Pourquoi a-t-il besoin ou a-t-elle besoin du 49-3 ? Après tout, puisque elle peut très bien, bon, mettons qu'elle ne l'obtienne pas, qu'il y a une majorité contre. Elle part, Macron est toujours président, il nomme un autre ministre, un autre chef du gouvernement. Est-ce que alors, ça change les choses ?
Alors, ça changerait pas grand-chose, puisque on arrive justement à la limite du raisonnement, c'est que vraisemblablement que le problème, c'est qu'il y a... En fait, dans la structure du gouvernement, en raison de ce que je viens d'expliquer, on est arrivé à un point, si vous voulez, pour gouverner le pays, le président de la République n'a même plus besoin d'avoir une majorité au Parlement.
Ouais.
Tout ce qu'il lui faut, c'est qu'il n'ait pas de majorité contre lui au Parlement. C'est-à-dire ces 49-3 ne puissent pas se trouver face à une motion de censure.
Qu'il ne soit pas renversé, lui, enfin qu'il ne soit pas censuré lui-même, quoi, c'est ça.
Ben voilà,
il ne peut pas l'être.
Alors lui, il ne peut pas l'être, et puis au pire, si un de ses gouvernements tombe, il en refait un, et si le suivant, il peut, par 49-3, il suffit qu'il n'y ait pas de majorité contre lui. Et on a vu, à l'époque de la réforme des retraites qui a beaucoup polarisé, que même sur une motion de censure dans un cas comme ça, même si l'extrême-gauche et l'extrême-droite votaient ensemble, avec une partie du centre, c'est très difficile d'arriver à cette majorité, parce qu'il y a toujours quelques députés du centre refuseront de faire tomber le gouvernement. Et donc, ça donne en fait à tous les pouvoirs au président de la République, du moment qu'il n'y a pas une majorité au Parlement qui s'oppose au président de la République. Et vu la façon dont le système de la 5e est polarisé autour de l'élection du président de la République, c'est très difficile au Parlement d'arriver à faire émerger une majorité hostile. Le mieux qu'on ait réussi à faire lors de la dernière élection, c'est d'avoir une absence de majorité, mais on voit que ça ne bloque pas l'action du président.
Bah ça, on le voit très très fort. Mais en fait, ça veut dire, franchement, Philippe Fabry, à quoi sert le Parlement aujourd'hui ? Puisque vous dites vous-même, et vous n'êtes pas le seul, et on le voit, que le Parlement ne peut pratiquement rien changer. Donc, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Enfin, il n'y a plus, s'il y a, sur le papier. Mais ce pouvoir législatif, qu'est-ce qu'il peut faire ?
Alors, le Parlement ne sert plus que d'alibi démocratique au président de la République, pour ne pas dire qu'on est dans une espèce de dictature élective. C'est ça la réalité du régime aujourd'hui. Et cela, c'est ça moi qui me marque particulièrement, c'est que les dernières élections législatives qui ont donné cette absence de majorité, tous les sondages ont montré que les Français étaient contents de cette composition où il n'y avait pas de majorité. Justement, ce qui semblait indiquer que les Français avaient une volonté de revoir du débat au Parlement, de revoir le Parlement porter son rôle. Mmh. Et c'est juste à ce moment-là que le régime se crispe et qu'on va encore plus dans du présidentialisme. Donc c'est vraiment à contre-temps en plus de ce que voudrait l'opinion. Mmh. Et c'est une dérive autoritaire du régime, je pense qu'on peut le dire comme ça. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'observateurs qui parlent d'un illibéralisme d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais
on parle de démocratie illibérale, effectivement. Et mais enfin, vous savez, c'est pas nouveau. Rappelez-vous que les polémiques, enfin, rappelez-vous, nous étions jeunes, vous n'étiez peut-être pas nés, sur le pouvoir personnel du général de Gaulle. Hein. Rappelez-vous Mitterrand qui disait est-ce le Duce, est-ce un dictateur, le coup d'État permanent, etc. Enfin, c'est une polémique ancienne depuis effectivement la 5e République. Mais au fond, est-ce que ça n'amène pas, et ce 49-3, encore une fois, ce 13e 49-3 le montre, est-ce que ça n'amène pas un véritable blocage des pouvoirs ? C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à quelque chose où les gens se résignent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et c'est une espèce de... Voilà, il y a un pouvoir, et il y a une machine qui roule, cette machine roule, et puis le reste, on n'en a rien à faire.
disent les... Alors en fait, le truc, c'est que c'est même pas un blocage du pouvoir, puisque le pouvoir arrive à faire passer tout ce qu'il veut. C'est plutôt que le pouvoir n'a pas tellement de limites et qu'il n'a plus de limites démocratiques. C'est ça qui est inquiétant. Parce que la constitution de la Ve République, et c'est ce que tous ses défendeurs disent, c'est qu'en gros, c'est une constitution qui permet d'avancer, qui permet toujours d'avancer, qui permet d'éviter les blocages. Le problème, c'est qu'elle permet d'avancer généralement en piétinant les oppositions, en faisant disparaître la culture du dialogue, et ça aussi, puisque malgré tout, ce qui est important à la démocratie parlementaire, c'est que toute décision importante est l'effet d'un compromis. Donc, elle ne laisse pas de traces, alors que chez nous, on décide tout de manière autoritaire en disant que le compromis, c'est trop compliqué, et ça fracture à chaque étape un peu plus la société.
C'est ça.
Ça, c'est grave.
C'est ça. C'est cartel et mon bon plaisir, hein, disait un certain Louis, le 14e. C'est intéressant, en tout cas. Merci Philippe Fabry, merci. Nous sommes dans une monarchie, allez, on va pas dire monarchie républicaine, on va pas dire bananière, mais enfin, on n'est pas loin.
On n'est pas loin.
Merci beaucoup Philippe Fabry d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Le Président Absolu, la 5e République contre la démocratie, c'est aux éditions Scripta. Maintenant, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour le face-à-face du jour où André Bercoff reçoit Patrice Franceschi. A tout de suite sur Sud Radio.
Avec usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face.
13h03 sur Sud Radio, il est l'heure pour nous du face-à-face où aujourd'hui André Bercoff reçoit Patrice Franceschi, l'écrivain, et puis qui a coécrit ce livre, Le goût du risque, une éloge de la vie riche, intense, joyeuse et engagée. C'est aux éditions Grasset.
Alors en ce moment, vous avez vu l'actualité, hein, l'actualité elle est lourde. Hein. Elle est lourde et effectivement... On a l'actualité, et puis les délires, les auberges espagnoles des fantasmes, de ceux qui, justement, bon, j'en parlais, moi, avant, dans cette émission, au début, qui ne prennent aucun risque. Ça veut dire, ils commentent, ils disent, oui, ça, c'est bien, Israël, Gaza, le Hamas, tout ça, ça, c'est dégueulasse, et tout ça, et à raison, je veux dire, ben, c'est pas le problème. Le problème, c'est ils n'ont même pas la rigueur de leur irresponsabilité, ils n'ont même pas la rigueur d'être loin. Parce que je comprends que quand on est sous les bombes, je l'ai dit, on peut avoir des excès, des fureurs, des colères, des envies de vengeance, mais au moins, on peut avoir du recul. Et en fait, Patrice Franceschi, votre livre, que vous avez écrit avec Andrea Marco Longo et Loïc Finaz, on constate quelque chose, c'est qu'en fait, chez nous, ce qui peut être en France, en Europe, en tout cas dans un certain nombre de parties du monde, pas seulement en France, ce qui nous manque le plus, c'est que le risque est devenu un mot obscène, un péché capital. C'est ça, non ?
L'aversion au risque, dans les sociétés occidentales, est une véritable maladie.
Ouais.
Et le risque... où son aversion n'est jamais regardée sous cet angle-là. C'est un petit phénomène à part, etc. En réalité, avec Andrea Marco Longo et Loïc Finaz, quand on se posait la question du risque et de son aversion dans nos sociétés, on trouvait que c'était une grille d'explication assez intéressante, d'où ce livre, de tout ce qui nous arrivait. Parce que quand on a une aversion au risque, parce que le risque est un mot devenu obscène,
oui,
et que tout est au principe de précaution, etc., eh bien nous ne prenons jamais... les décisions qu'il faudrait pour anticiper les problèmes qui vont arriver. Voilà. Et ça, à partir de là, on comprend pourquoi nous sommes toujours dans la réaction aux choses. Je prends un exemple, puisque vous parlez de l'actualité internationale qui est effectivement réellement sombre, on ne sait pas très bien où le monde va. Les trois grands avant-postes de la démocratie dans l'Orient compliqué, les Kurdes, les Arméniens, les Israéliens, sont attaqués de toutes parts par les mêmes ennemis.
Exact.
Et successivement et les uns après les autres. C'est l'Occident, sa démocratie, ce que nous sommes qui sont attaqués. Si nous avions pris les bonnes décisions, le cas de l'Arménie le plus emblématique, mais les Kurdes aussi, les bonnes décisions au bon moment pour empêcher ce qui vient d'arriver, ça ne serait pas arrivé. Mais notre aversion au risque a fait qu'on n'a pas voulu faire ce qu'il aurait fallu. Nous sommes inhibés dans l'utilisation de notre puissance. Franchement, l'Occident et la France en premier, ce n'est pas rien. Mais si le pouvoir que nous avons de défense, nous ne l'utilisons pas au moment où il faut, c'est comme si nous n'avions rien.
Oui, ça, et nous, même plus, Patrice Franceschi, nous allons jusqu'à ne même pas avoir honte de dire qu'on pourrait l'utiliser.
Ben oui.
C'est ça qui est...
Et tout ça, c'est une maladie de nos sociétés. Et due à quoi ? Alors, dans notre livre, qui s'appelle « Le goût du risque », c'est déjà... un titre un peu provocateur pour bien montrer ce que l'on veut, mais c'est un éloge de la vie libre et intense. joyeuse et engagée, comme disait votre camarade tout à l'heure. Parce que quand on a le goût du risque, la vie vraiment vaut la peine d'être vécue. Et on écarte de soi, de sa société, les dangers qui la menacent.
Oui, mais je voudrais qu'on reste un peu sur l'aversion au risque, parce que c'est quand même extrêmement important. On va prendre parce que vous parlez un peu de tout, vous parlez de sécurité, liberté, vous parlez de tout ça. Est-ce que ce n'est pas quand même ce goût du risque? Est-ce que ce n'est pas d'abord un apprentissage, une pédagogie qu'on ne donne plus, ni à l'école, évidemment, ni dans les familles, ni nulle part?
Aujourd'hui, on empêcherait Christophe Colomb de partir. Destination inconnue, retour improbable, vous restez là. Et il y aurait, au-delà du principe de précaution, un tas de normes que nous avons construites, comme les barreaux dorés de notre prison, qui empêcheraient de partir, tout simplement.
Ils pourraient même pas bouger.
Il y a 15 chapitres dans ce livre, qui est très bref, très court. C'est un coup de sabre, en réalité, cet essai littéraire, dans notre société qui s'effraie de tout. Les titres des chapitres, « Mort au principe de précaution »,« La mort n'est pas à craindre », etc., sont des titres provocateurs pour bien dire ce que l'on veut dire, même si derrière, nous pesons les choses, elles sont, comment dirais-je,
argumentées,
etc.
Peut-être vous pesez un peu trop les choses, des fois, mon cher Patrice.
En fait, peut-être,
si
mais nous n'avons pas voulu, Andrea, Loïc et moi, nous engager sur un chemin de polémique et rester sur l'argumentation. Et dans chaque chapitre, chaque problème de notre société dans cette aversion au risque, lui donner des solutions, des pistes de réflexion. C'est bref, il fait 120 pages. Simplement pour que
Mais c'est bien d'avoir posé les choses, ça c'est clair.
Poser les choses pour que les gens se disent, au fond... Est-ce que notre aversion au risque, le fait que nous ayons perdu le goût du risque qui autrefois était donné, il était enseigné, c'était bien d'être capable de prendre des risques, peser, mesurer, intelligent, bien entendu, mais on en était capable, cet abandon de, de ce discours, de cette énergie, de cet élan vital qu'il y a notamment dans la jeunesse, fait qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de risque, on en a peur. Et donc nous avons voulu poser tous les jalons.
Oui.
Explicatif et laisser les gens ensuite décider.
Mais est-ce que vous n'êtes pas, et justement vous le dites dans votre livre, vous n'êtes pas une minorité lilliputienne face au Gulliver de la sécurité et du bénéfice opposé au risque?
Si Loïc et surtout Andrea Marcolongo avaient pu être là aujourd'hui, je peux vous assurer que, surtout Andrea, quand vous la voyez, vous apercevez à ce moment-là que non, les minoritaires, à un moment donné, quand ils sont convaincus parce qu'ils sont habités de quelque chose, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils promeuvent, ne craignent pas d'être minoritaires. Et au contraire, se disent qu'il faut élargir le champ de cette minorité, et qu'en réalité, depuis que le livre est paru il y a 3 semaines, je ne parle même pas de la presse, de ce qu'elle en dit, qui est très positif, mais des gens qui lisent le livre et qui nous en parlent, disent « mais moi je pense en fait la même chose, mais je pensais être le seul à penser ça ». Et au fond, le livre il sert aussi à dire aux gens, voilà ce que vous ressentez, vous, dans une entreprise bloquée par les normes, dans votre activité quotidienne, où plus on dématérialise et plus on déshumanise, etc. Ben les gens s'aperçoivent en fait qu'ils ne sont pas minoritaires et que cette minorité peut s'élargir.
Oui, mais attendez, ça c'est très bien, mais ce sont des mots. C'est-à-dire qu'au fond, et en plus, c'est pas à vous que je reprochais ça, parce que vous avez toujours cultivé le risque et vous n'êtes pas le seul, et heureusement, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est comment faire que vous êtes dans une entreprise et vous parlez par exemple de effectivement, on a vu avec le Covid, on parlait des guerres, etc. On parlait de ce qui se passe aujourd'hui. Vous parlez des Kurdes, on a vu ce qui s'est passé effectivement dans le Haut-Karabakh. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression qu'effectivement, on en parle, etc., et c'est très bien. Mais dès qu'il s'agit de passer à l'acte, quand je dis de passer à l'acte, il ne s'agit pas d'être en guerre, mais de dire on va prendre des risques, on va y aller, etc. Est-ce que les gens n'ont pas été cultivés, pour la plupart, à dire oui, mais attention, moi j'ai ma carrière, j'ai ma famille, j'ai ma femme, ou j'ai mon mari, mes enfants, etc. Comprenez, pas de vague. Culture du pas de vague que vous attaquez dans votre livre.
C'est une culture de l'immobilisme plutôt que de prendre des risques. Mais le problème, c'est que nous sommes tous, à des degrés divers, là où nous sommes, entreprises, médias ou tout ce que l'on veut, déjà emprisonnés dans un filet incroyable d'obligations, de contraintes, etc., de normes qui déjà, dès qu'on veut un peu bouger, et de bureaucratie, qui dès qu'on veut un peu bouger, vous en empêche d'office. Bien. Alors, la plupart des gens se résignent, parce que comment faire ? D'autres se rebellent, en disant toujours, on peut se révolter contre une chape de plomb de normes qui, par exemple, dans mon entreprise, m'empêche de faire quoi que ce soit. Par exemple, pour les normes, qui s'accumulent...
Oui, prenons des exemples concrets.
S'accumulent de jour en jour. Normes de sécurité sur les bateaux, normes de sécurité... nous ne sommes pas contre les normes. Nous sommes heureux qu'il y ait des normes qui font que les jouets de nos enfants sont bien faits et ne vont pas leur faire de mal. Nous sommes contre simplement l'abus des normes qui ne cesse de nous emprisonner. D'où le fait que notre livre est mesuré. Quand on dit mort au principe de précaution, on dit simplement que le principe de précaution, à l'origine, pourquoi pas, il était fait pour quelque chose de très précis. Mais du fait qu'il est entré dans la Constitution, il ne pouvait que déborder de son lit et atteindre toutes les strates de la société. Et plutôt que d'agir, prenons des précautions. Mais dans tous les domaines, hors de son champ d'application d'origine, qui était pour la planète à venir. Bon. Donc tout ça...
Mais le principe des précautions était prévu au départ pour la planète.
Oui, pour les problématiques environnementales. C'est ça. C'était très bien. Nous avions des problèmes. Prenons la précaution de léguer une planète suffisamment correcte pour nos enfants. Bien. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. À partir du moment où on l'a inscrit dans la Constitution, on a bien vu qu'il a débordé de tout ça. Mais prenons des précautions absolument pour tout. Et à partir de là, si vous n'avez plus, la possibilité dans votre vie quotidienne de prendre quelques risques que ce soit, eh bien vous êtes à ce moment-là plus qu'emprisonné. Vous êtes étouffé. Et la vie vaut plus la peine d'être vécue. Donc, avoir le goût du risque, c'est se dire, là où je suis, eh bien on peut se révolter, on peut faire les choses... Essayer d'empêcher. Mais c'est très difficile parce qu'il est déjà bien tard. Et comme il y a un cumul, l'éducation sur le goût du risque n'est plus donnée. C'est la précaution. L'infantilisation des gens avant sa grande... Moi, je suis toujours énervé quand je prends le train et qu'on me dit attention à la marche, n'oubliez pas votre sac, etc. Oui, papa, maman, ça va. Je veux dire, cette infantilisation des gens, la bureaucratie qu'on nous met derrière, la numérisation de tout, qui est une déshumanisation des rapports humains, des interactions humaines, tout ça se cumule en réalité. Ce n'est pas un problème quelque part. Non. C'est un ensemble de choses dans des sociétés qui finalement, comme la nôtre, entre, et ça on ne va pas s'en plaindre, 70 ans même plus de paix, une évolution économique de niveau de vie incroyable, malgré les problèmes que nous connaissons, et bien ça endort les gens. Voilà. Et il faut pouvoir, et c'est ça la difficulté, garder cette paix, garder cette économie et en même temps garder le goût du risque. Ça, c'est une équation difficile.
Vaste programme, on continue d'en parler après cette petite pause.
Avec Patrice Franceschi et puis avec vous, bien sûr, sur Facebook, sur YouTube et bien sûr au 0826 300 300. Appelez-nous à tout de suite.
Usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com. Usineonline.com présente...
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
En revanche, vous savez, je sais que vous l'avez aussi, c'est le goût du risque. Hein. Et le goût du risque, c'est important. On est avec Patrice Franceschi, qui avec Andrea Marcolongo et Loïc Finaz ont écrit ce bouquin qui vient de paraître chez Grasset. Et je voudrais vous lire la fin, ils ont fait un petit bréviaire à la fin. C'est intéressant. On en prend de la graine. Article 1er. Considérer le goût du risque comme l'aiguillon le plus mordant qui ait jamais été inventé pour houspiller la vie morne. Article 2. Pour ceux qui ont pu s'approprier leur vie, ne pensez à la retraite qu'au seul jour de la mise au tombeau. Vous allez vous faire insulter. Quoi ? Ne pensez à la retraite que le jour de la mise au tombeau ? Non, ça va pas. Je ne vais pas attendre mon inventaire. Oui, et vous ajoutez, c'est ainsi qu'on paye sa dette. Avant cela, en avant toute, pour les autres, mettre cette pleine puissance du moteur, le jour même de la retraite, et voilà tout. C'est-à-dire, vous dites, oui, d'accord, prévoyez, mais ne pensez pas qu'à la retraite, quoi. Ne soyez pas retraité dans votre tête.
Franchement, si vous êtes retraité, ou pensez à votre retraite à 20 ans, ou même à 30 ou 40, en fait, vous cassez le champ de la vie qui peut être en vous, l'exaltation de la vie. Il faut y penser au bon moment. Et puis pour certains, et il y a quelques provocations évidemment dans ce livre-là, ils pensaient que quand on est au tombeau, parce qu'après on a toute l'éternité pour se reposer. Bien, le reste du temps, il faut vivre pleinement. Voilà, c'est ça le message.
Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer.
Et voilà, on peut
chanter
le dire comme
Moustaki. Article 3, alors ça c'est intéressant. Sans cesse dire ou courtier en assurance de toutes sortes, fuyez-moi.
Ouais.
Pas d'assurance.
Oui, mais alors là aussi c'est provocateur pour dire que, est-ce que dans ma vie... Ce qui va compter, surtout dans la jeunesse, dans l'élan vital qui doit nous habiter, est-ce que c'est vraiment s'assurer ? Est-ce que la vie, c'est pas s'exposer et ne pas vivre, se protéger ? Voilà. Donc, on caricature, on force le trait, c'est normal pour se faire entendre, mais franchement, Je pense que l'exaltation de la vie, le peu de temps qui nous est donné avant la mort, si franchement on pense qu'à se protéger et à s'assurer, on ne vit pas pleinement. Et ça n'en vaut pas la peine.
Patrice Franceschi, oui. Alors ceux qui disent sortez couverts, ils n'aimeront pas ça du tout, du tout. En plus, alors, ça c'est très intéressant, exiger de la Providence ce qu'on ne lui demande jamais, la bataille plutôt que le repos. Pourquoi vouloir une existence dénuée d'épices ? C'est bien, parce que vous ne grattez pas dans le sens du poil, et heureusement vous dites, mais la bataille c'est important,
mais
d'ailleurs.
Mais vous savez, ouais. C'est ça, c'est tiré d'une vieille leçon de l'école stoïcienne de l'Antiquité. Ou Cicéron, Sénèque. Or, Pindare, c'est bien avant. C'est un poète, mais quand Pindare disait « Oh mon âme, n'aspire pas à la vie éternelle, mais épuise le champ du possible », il préparait déjà les stoïciens qui viendront 2-3 siècles plus tard en disant « Qu'est-ce qui vaut la peine dans la vie ? C'est combattre quand il le faut, c'est son exaltation et non pas sa protection. » Prenons le cas de Cicéron, dans Traité des Devoirs, quand il dit « Quand les circonstances l'exigent, nous devons entrer dans la mêlée et préférer la mort à la servitude. » Il a tout dit de peuples qui veulent vivre libre avant tout.
Et qui payent le prix.
Et qui payent le prix de ce qu'il faut. La liberté, c'est ce qui coûte le plus cher. Mm-hmm. Il faut accepter d'en payer, consentir à en payer le prix pour vivre pleinement. L'histoire dans tout ça, quand on parle du goût du risque, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a simplement le fait que, est-ce qu'on a envie de vivre au rabais ? Est-ce qu'on a envie de ne prendre de la vie que des miettes ? Ou est-ce qu'on veut la prendre pleinement ?
Vivre à genoux ou pas ?
Voilà.
That is the question. Desserrez la ceinture et cherchez la bagarre, dit Zorba, dans votre livre d'ailleurs. Et alors, je continue parce que je trouve ça très joli, je vais pas lire tout, mais vous dites « L'aventure étant le dictionnaire de la vie tout entière, décidez que la fonction la plus éblouissante du risque consiste à faire de chacun des mots de ce dictionnaire une vie en elle-même. Si le ciel devait adresser une prière un tant soit peu sensée aux hommes de bonne volonté, ce serait bien celle de suivre ce précepte, c'est-à-dire l'aventure, le dictionnaire de la vie. » Et j'ajoute, parce que je voudrais que vous répondiez là-dessus et que vous commentiez vos propres paroles, d'ailleurs. « À ceux qui disent gentiment à leurs amis, prenez soin de vous. » Ça, c'est vrai, on l'entend surtout en ce moment.
«
Prenez soin de vous. » Vous répondez, ne vaudrait-il pas mieux s'engager à prendre soin des autres, nos voisins comme nos lointains ? Sinon quoi, égoïsme et vanité.
Oui, parce que cette manie aujourd'hui de dire aux autres « prends soin de toi », c'est un discours qui va avec l'individualisme exacerbé de nos sociétés, notre narcissisme qu'on peut modéliser par le symbole du selfie, et finalement les autres ne comptent pas.
Vous savez, de Vinci quand je prends la Joconde.
Mais oui, vous savez, les livres de développement personnel qui marchent si bien et contre lesquels je suis profondément. Le développement personnel, à mes yeux, et j'ai essayé toute ma vie de plaider pour ça dans mes actions ou dans mes livres, et Andrea Marcolongo, Luc Funès, c'est la même chose, on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est que on se développe vraiment soi-même quand on se préoccupe des autres. Les deux fonctions sont liées. Je m'occupe des autres, comme on l'a fait si souvent, les Kurdes, etc., eh bien je me développe moi-même. Mais si je cherche à me développer moi-même que par moi-même, avec l'abandon du souci des autres, eh bien franchement, là aussi je pense que le champ de la vie s'éteint. Voilà, comme une bougie, et que c'est pas en tout cas notre fonction, et c'est pas ce qu'on dit dans ce livre. Voilà.
L'onanisme égoïste considéré comme un des beaux-arts. Et vous dites aussi ceci, c'est très... Les gens raisonnables ne cessent de rappeler que « qui trop embrasse, mal étreint ». C'est intéressant parce que Elon Musk, quand il faisait SpaceX, Tesla et maintenant Twitter, on lui dit « mais ça va pas, tu vas pas faire ça et toi en même temps, ça n'existe pas ». Et il le fait. Ils ont parfaitement raison car telle est la vérité. Mais leur répondre qu'il n'est peut-être de bon choix au bout du compte que celui qui commande de tout choisir quand cela en vaut la peine, cela porte un nom, prendre le risque d'aventurer la vie. Ouais. C'est ça que vous dites, aventurer
la vie. C'est un risque. Le plus beau des risques, c'est la liberté. C'est le chapitre 2 de ce livre. Mais aventurer la vie pour, en quelque sorte, vivre, multiplier sa capacité de vivre, c'est essentiel. Donc, qui trop embrasse, mal étreint, c'est protège-toi, n'en fais pas trop. Au fond, endors-toi. Et à ce moment-là, le bonheur est le somnifère de l'action. Non, c'est si les gens sont habités par des passions, sont habités par... Ils savent ce qu'ils veulent, ils ont une colonne vertébrale, etc. Eh bien, en avant toute. Et comme disait Zorba, desserre la ceinture et cherche la bagarre. Mais c'est positif, évidemment. C'est vivre vraiment.
Et comme une amie me disait, il n'y a pas si longtemps, on était en avion, on allait vers Montréal. Elle me disait, tu vois, ce qui me... Elle lui disait, c'était un peu provocateur, même pas provocateur. Elle disait, tu sais ce qui m'embête en ce moment en France ? Je lui dis quoi ? Il me dit, la France hiberne dans un préservatif.
Alors, je ne sais pas si c'est dans un préservatif, mais hiberner, c'est le sentiment que l'on a trop souvent, non pas parce que les individus sont comme ça, mais parce que le système général des choses, de la politique à l'industrie, à la finance, etc., finalement, nous endort dans ce cocon. Et il faut quand même se révolter là-dessus, individuellement et collectivement, parce que sinon, on ne vit plus. Ce livre-là, Le goût du risque, ce n'est rien d'autre qu'une tentée de faire prendre conscience, dans un domaine, le risque qui n'est pas analysé comme tel socialement, nous sommes en train de nous endormir, que c'est parce que nous nous endormons que les orages de l'histoire se rapprochent, au niveau international comme national, et que se réveiller, il serait peut-être temps de se réveiller, voilà.
Eh bien là, on se réveille, vous savez que dans cette émission, on passe son temps à sonner, non pas le tocsin, mais à dire, effectivement, ne laissez pas votre tête sous le sable, regardez autour de vous, c'est ça qui vous sauvera.
On continue de parler du goût du risque avec Patrice Franceschi, et puis avec vous, au 0826 300 300 sur YouTube et sur Facebook aussi. À tout de suite sur Sud Radio.
Usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com. Usineonline.com présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Oui, vous avez parlé des courriers en assurance, surtout ne les voyez pas, hein, les trois mousquetaires de Le goût du risque. Et puis vous dites, une seule fuite est courageuse, celle devant les banquiers proposant des plans d'épargne à long terme. Ça c'est intéressant parce que qui ne reçoit pas du matin au soir, du soir au matin, exactement, des invites. Mais vous dites, sinon, comment faire pour tout jeter dans la balance quand sonne l'heure, comme Cyrano, mieux vaut lancer sa bourse sur la scène de la vie que la conserver dans un coffre-fort, surtout qu'on sait que jamais un coffre-fort ne suivra un corbillard. Ça, c'est de moi.
C'est ces petits articles qui terminent le livre, qu'on a essayé de faire à la fois provocateur et amusant, essaient de donner, finalement, par rapport au titre du livre, hein, Le goût du risque, et la maladie de notre siècle, qui est l'aversion au risque, essaient de donner, en fait, le principal de tout ça, qui est l'élan vital.
Oui, mais
qui doit habiter les gens.
Oui, mais pourquoi ? Voilà. Attendez, on va être dans le détail quand même. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse des plans d'épargne à long terme ? Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'est-ce qui vous révulse, Patrice Franceschi, dans ces plans d'épargne à long terme ? Après tout, on a besoin de...
Écoutez, c'est un peu provocateur tout ça. La réalité, c'est que bien sûr, faites-en. Faites-en, mais que ce ne soit pas la fonction principale de votre vie. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si, finalement, quand vous avez 20 ans, compte tenu de tout ce qu'on vous raconte, à vous, jeunes, prends pas de risques, attention à l'échec, confusion avec la faute, prépare ta retraite, fais ton plan d'épargne logement, etc., qu'est-ce qui reste pour vivre ? Franchement, de l'exaltation de la vie, du champ de la vie qu'un jeune peut faire, surtout dans les passions qu'il pourrait ressentir. Grâce à Dieu, surtout dans la jeunesse, il y a plein de gens qui n'acceptent pas cette fonction de sécurité absolue qu'on leur donne. D'où l'espoir, et pour nous, ça sera finalement gagné. On participe à cette bataille avec ce livre, Andrea, Marco Longo, Loïc Finaz et moi. Et on sait bien que dans la jeunesse, il y a des forces vitales qui ne demandent qu'à se développer.
En tout cas, vous prêchez l'exemple, et c'est très important d'avoir la vie qu'on a, parce que si on peut dire, regardez, on ne s'est pas pris des rentes de situation.
Non, je ne dis pas ça par prétention, mais je pense qu'on a tous les trois, Andrea, Loïc et moi, une légitimité à dire ce qu'on dit, dans ce qu'on fait dans notre vie.
Il vaut mieux, oui.
Moi, je peux vous regarder, vous connaissez ma vie, etc. Je n'ai pas d'épargne logement, ni de quoi que ce soit. Mais on n'est pas contre sur le fond, attention. On est contre le fait que ça domine tout.
Non, voilà. C'est ça, absolument. Il ne s'agit pas de... Alors justement, on arrive à aussi ce côté très intéressant, parce qu'on est... On n'est pas jeunes, en tout cas, moi encore plus que vous. Vous dites, dans cette fuite du temps qui est l'existence, pressez le pas au fur et à mesure de l'écoulement des années. Beaucoup diront prudence. Leur répondre, mieux vaut accélérer davantage. Refroidir avec l'âge pourrait bien être le pire crime contre soi-même. C'est très joli, ça. Refroidir avec l'âge.
Mais oui, parce que
ne
finalement...
Ne pas devenir un glaçon, quoi.
Oui, et finalement... D'abord, on ne sait rien si on ne sait pas que la vie est tragique. Le contrat de départ pour tout le monde est le même.
Ben oui.
On est pour mourir. Bien. À partir de ce constat simple, qu'est-ce qu'on fait du peu de temps que la vie nous concède avant de mourir ? Voilà, c'est une question philosophique de base qui hante la civilisation occidentale depuis 2500 ans. La réponse pour nous, elle est très simple. Vivre pleinement, pas au rabais, pas des miettes de vie. Et pour vivre pleinement, plus le temps sera, qui nous est accordé se raccourcit mécaniquement. Car vous avez 20 ans, vous pouvez espérer pas mal. 40, un peu moins. 60, de moins en moins. Eh bien, quelle est la solution ? S'endormir et craindre ce qui va venir ? Ou bien au contraire, accélérer le pas et ne pas commettre ce crime contre soi-même qui consiste à refroidir avec l'âge ? Voilà, l'énergie que peut avoir... Moi, j'ai des tas d'exemples autour de moi. Des gens de 80 ans qui entreprennent encore, qui ne veulent pas, justement, se dire... Il reste peu de choses. Maximisons-le le maximum. Donc, si on a encore des rêves, il faut les accomplir.
Vivre et pas survivre, c'est ça. Vivre
voilà,
et pas survivre.
Et surtout, ne pas attendre la fin des choses avec crainte. Il y a un chapitre sur la mort n'est pas à craindre, la vieille leçon stoïcienne, et qui veut dire simplement si on craint la mort, c'est le début de la servitude. C'est le début où on peut être gouverné par la peur. C'est le début de la fin de tout.
Et n'oubliez pas que tous les pouvoirs de gauche, de droite ou du centre,
dans toute l'histoire,
veulent nous gouverner par la et dans toute l'histoire veulent gouverner par la peur. Ils veulent pas les aigles.
C'est valable aussi dans les entreprises, dans toute structure humaine, où finalement ceux qui dirigent préfèrent avoir des gens qui suivent sans poser trop de difficultés et pour lesquels, notamment. La première des vertus, la liberté, n'est pas essentielle. Aujourd'hui, la liberté est devenue chez nous quasiment une valeur optionnelle.
Oui. Vous choisissez entre liberté et sécurité. Hein.
Les vieux vases communicants. Plus vous avez de liberté, en général, moins vous avez de sécurité, et inversement. En fait, il faut toujours trouver un bon équilibre. Nous, on plaide pas pour une liberté totale et une insécurité totale.
Mais on demande de choisir la sécurité, quand même.
Tout le temps, parce que notre société, c'est maintenant...
Hygiène.
Alors, l'hygiénisme et tout ce qui va derrière, mais en réalité, il fut un temps où la liberté primait surtout. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, la liberté ou la mort. Vivre dans la servitude ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, c'est la sécurité qui domine, voilà, c'est un constat. Mais si la sécurité domine, à ce point-là, la liberté régresse automatiquement. Et franchement, ne pas vivre en liberté, c'est ne pas vivre pleinement. Et le goût du risque plaide pour prendre le risque de vivre pleinement en liberté.
Et moi, je dirais, paraphrasant Churchill, vous avez choisi la sécurité, justement, pour éviter la liberté, eh bien, vous aurez l'insécurité et la non-liberté, et la soumission.
Ça, c'était au moment de notre façon, avec Munich, de réagir à la montée du totalitarisme nazi en Europe. Vous avez voulu éviter la guerre, vous aurez la guerre quand même, vous aurez la honte, le déshonneur.
Le déshonneur, oui.
Alors, on n'est pas dans ce cas extrême, mais néanmoins, d'un point de vue international, nous y sommes déjà. Il ne faut pas oublier, si on fait une petite parenthèse là-dessus, que la montée, la ruée vers la puissance des théocraties, des totalitarismes et des régimes dictatoriaux hors d'Occident est quelque chose d'assez impressionnant, avec un réarmement mondial de ces gens-là qui est inquiétant. Bon, pour y faire face... Pour leur botter le derrière demain, nous avons toutes les possibilités. Parce que nous avons chez nous quand même une grande puissance, civilisationnelle notamment. À nous de ne plus craindre les risques, de répondre au moment où il faut, en anticipant les choses. Voilà.
Eh bien, on va voir ce qu'en disent nos auditeurs, Esteban.
Oui, nous avons Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour André, bonjour monsieur.
Bonjour
fantastique,
Jean-Marc.
Fabuleux ce que j'entends.
Merci.
On n'est pas seul. Hein.
Ah, on n'est pas seul.
Mais le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre.
Alors vous venez de poser une question très intéressante, qui est quels sont les risques de ne pas prendre de risques. Bon, on en parle aussi dans le livre à certains moments, parce que l'immobilisme, et on le voit bien dans la situation internationale, avec le Haut-Karabakh, on aurait pu largement anticiper les choses et faire en sorte que les Azéris n'envahissent pas les Arméniens. Bon, le poids de l'immobilisme... Le risque de l'immobilisme est effectivement colossal, surtout dans les situations que nous connaissons aujourd'hui. Alors on en parle dans le livre, rassurez-vous, mais c'est vrai que le risque du non-risque est une vraie problématique.
C'est vrai. Jean-Marc, oui, vous voulez... On vous écoute, Jean-Marc.
Moi, je ne toucherai jamais de retraite. et j'ai pas peur de pas toucher de retraite parce que je sais pas combien de temps je vais vivre. Vous savez, les gens, quand ils ont 20 ans ou 30 ans, ils vous disent, bon, plus tard, la retraite, et puis alors, je fais un crédit de 25 ans. Donc, dans 25 ans, j'aurai fini de payer le crédit. Mais déjà, est-ce qu'ils sont sûrs d'arriver à 25 ans? Est-ce qu'ils sont sûrs que leurs amours seront toujours là, que leurs parents seront toujours là, et dans quel état ils y seront toujours? Donc, les gens, ils vivent toujours au futur, mais sans penser au présent. Alors que le futur doit être une aventure. Tentez, essayez, allez voir. Elle est une devise. Les Moitissiers, les Abinathan, les Jacques Brel et compagnie, ça c'était les gens qui vivaient, tu veux dire. Donc, vous savez, à Jean Mermoz, on lui disait « Mais vous n'avez pas peur avec tous les risques que vous prenez, Jean ?» Et Jean Mermoz répondait « Mais le plus grand risque pour nous, ça serait de mourir dans un lit. » Voilà, vous savez, moi, comme exemple, je fais du sport, je fais beaucoup de sport, j'en fais l'après-midi en pleine chaleur, j'ai habité au Venezuela, je vais souvent à une réunion, si cela. On me dit « Mais tu es fou, tu pars en pleine chaleur, tu risques d'un infarctus. » Mais j'ai dit oui, certainement, mais le matin, j'ai horreur de faire du sport et je prends un plaisir immense à partir en pleine canicule à monter d'école. Alors certainement, il y a des chances que peut-être un jour, j'aurai un infarctus en montant en vélo. Mais ça a été ma vie, elle a été magnifique, elle a été fantastique. Et pourquoi en plus, je veux dire, en plus je fais tout pour être en excellente condition physique, mais c'est mon plaisir. Alors bien sûr, si je dis ça à un cardiologue, il va me dire « Mais à votre âge, il me dit « Mais vous forcez trop, mais il ne faut pas partir avec la chaleur, mais il faut se couvrir, mais il faut… » Heureusement, j'adore ma maman, je ne l'ai jamais écoutée, parce que moi, j'aurais fait un peu de vélo une fois par an, entre 8h et 8h30 du matin. Donc les gens bien pensants, si vous voulez, vous expliquent ce qu'il faut faire. Mais comme je vous ai déjà dit, il n'est pas interdit dans cette magnifique radio, avec mon magnifique André Bercoff, il n'est pas interdit de réfléchir quand même dans la vie. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui réfléchit. Allez-vous faire vacciner, restez chez vous, ne sortez pas sur la plage, attention, prenez votre température.
Vous avez raison, Jean-Marc, l'intelligence est aujourd'hui pour certains un péché capital et la stupidité, la lucidité encore plus. Merci, on va prendre, merci Jean-Marc.
Oui, on va prendre Dust qui nous appelle depuis la Haute-Garonne. Bonjour Dust.
Bonjour Dust.
Bonjour Sud Radio et merci de prendre mon appel. J'aime bien ce que j'écoute là ce matin, c'est pas mal le truc de la sécurité, j'adore. Je pense que le problème de la sécurité, c'est que ça nous fait prendre le risque de travailler toute une vie pour assurer un moment où finalement on a de moins en moins besoin de choses. Parce que là j'ai 60 ans, je vois bien que j'ai fait pas mal de choses, des voyages, du parapente, et je vois bien que la retraite que j'aurais pas m'aurait servi à rien.
Mais en plus, c'est joli ça, la retraite que j'aurais pas m'aurait servi à rien, c'est joli. Oui, ah oui, Dust, allez-y.
Ce qui m'inquiète un peu de cette histoire de sécurité, c'est que le pouvoir sait tout ça. Et des compétences pour nous manipuler, pour manipuler la peur, pour nous faire flipper, pour des choses qui n'ont pas lieu d'être.
En tout cas, en résumé, il faut vivre tout de suite, il ne faut pas attendre de vivre. Voilà.
Exactement.
Moi, j'entends souvent, mais pas majoritairement, des gens qui disent, voilà, bon, ben, j'ai envie de faire ceci, je rêve de faire cela, putain, je ferai tout ça à la retraite, génial, etc. Et tu as envie de leur dire, mais pourquoi t'attends ? Je veux dire, on ne vit pas à partir de la retraite. Le résumé de tout ça, c'est il faut vivre tout de suite. Ne pas vivre au rabais, je le redis, et surtout ne pas vivre au rabais et vivre tout de suite si franchement on a en soi des passions, des désirs et envie de vivre. Voilà, l'élan vital, ce qui est dans notre ventre, l'élan vital dont parlaient nos anciens, doit être développé tout le temps. Voilà, sinon ça vaut pas la peine de vivre. Et donc vous avez raison.
On est d'accord, Esteban.
Patrice, on a Brigitte qui nous dit les projets, les rêves, c'est ça aussi qu'il nous faut vivre et avancer.
Bien sûr.
Partager.
Et bien entendu, si on n'a pas de projet, pas de rêve en soi, ça commence mal. Mais beaucoup de gens, la plupart des gens, ont des rêves, des envies, des désirs. Et vivre, c'est simplement accepter de prendre le risque de les faire exister, quel que soit le risque et quel que soit éventuellement les échecs. Il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle « Danser après l'échec ». Et qui est le modèle de Zorba, d'Alexis Kazantzaki, etc. Un personnage fabuleux dont l'élan, l'énergie vitale qu'il habite est indestructible. Et dans ses aventures, il tente des choses, il échoue, il danse parce qu'il a échoué pour mieux repartir et recommencer.
Et Samuel Beckett disait échouer, échouer encore, échouer mieux.
Voilà, et après apprendre de ses échecs pour mieux repartir. Donc l'échec, c'est pas la faute. Et d'ailleurs, qui ne rencontre aucun échec? Ceux qui n'entreprennent rien. et donc ceux qui ne vivent pas. Il ne faut pas avoir peur de l'échec et donc dire à Brigitte que bah oui, si on a des rêves, il faut surtout tenter tout de suite de les vivre sans craindre d'échouer pour mieux recommencer.
Alors, on continue de prendre vos appels au standard. On sera avec Frédéric dans une seconde après cette courte pause. A tout de suite sur Sud Radio.
Usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com. Usineonline.com présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Dernière ligne droite dans ce face-à-face, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Patrice Franceschi et puis avec Frédéric qui nous appelle depuis Nantes. Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Franceschi. En vous écoutant tout à l'heure, finalement, un peu au début de l'émission, je me demandais si en matière de perte du goût du risque, l'exemple finalement ne venait pas du haut. Lorsqu'on voit l'institutionnalisation du pantouflage de la haute fonction publique, par exemple. Et puis aussi, si la conséquence de tout ça n'est pas la transformation des pays, et notamment, bien sûr, ceux de l'Union européenne, en un gigantesque espace administratif où, finalement, il n'y a plus de personne ni de citoyens, mais uniquement des administrés, quoi. Le reste de tout exécutif, finalement.
Oui, ou des consommateurs. L'aversion au risque, quand on regarde, on fait un panorama général de notre société aujourd'hui, mais le mal est profond, il n'a pas commencé hier, atteint toutes les traces de la société. Et en fait, nos dirigeants, qu'ils soient dans les entreprises d'ailleurs ou dans l'État, ne donnent pas l'exemple, évidemment, parce qu'eux-mêmes sont atteints par cela. Et à partir du moment où tous les symboles de notre direction, de ce qui fait, mais c'est pareil aussi chez dans l'art et ailleurs, sont dans l'aversion au risque, du moins dans la précaution, et non pas dans et d'une certaine manière dans la capitulation à la volonté de vivre. Et la capitulation et la soumission dans la volonté de vivre libre, parce qu'il y a les deux.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas la garantie de l'emploi et de la carrière qui
joue
beaucoup,
tout ça a joué. En fait, il y a pour expliquer pourquoi l'aversion au risque est devenue si grande, il y a 15 chapitres dans le livre. Il y a 15, pour nous, 15 explications. Il y a effectivement le côté éducatif, la précaution, la société complètement normée. Il y a la judiciarisation de toute activité qui fait peur et qui empêche d'agir. Il y a un faisceau de choses et qui a atteint tout le monde, et même nos élites le sont et ne donnent pas l'exemple. Voilà. Quant à l'Union européenne, c'est une union économique et non pas politique. Donc elle a affaire plus à des consommateurs qu'à des citoyens.
Et à l'affaire, il faut dire aussi, Frédéric, avec la garantie de l'emploi, quand on donne la garantie de l'emploi, je ne suis pas contre. Enfin, eh bien, la garantie de l'emploi ne donne pas un goût à la liberté totale. Oh, justement, on devrait d'ailleurs, mais c'est le contraire qui se produit. Et c'est tout le problème.
Merci beaucoup, Frédéric, de votre appel. On va retrouver Dominique qui nous appelle. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Dominique.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, André. Bonjour, Patrice. Alors, Patrice, on s'est croisés, on a même participé à un événement ensemble en 89 en Nouvelle-Zélande.
D'accord.
Voilà. Donc, c'était déjà une forme de risque à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait encore organiser ce genre d'événement d'aventure à travers le monde.
C'était quoi rapidement, deux mots, dites-nous.
C'était un grand raid multisport par équipe dans un environnement complètement naturel,
avec
beaucoup de difficultés parce que ça durait 8 jours et c'était non-stop et c'était assez difficile quand même. Et aujourd'hui, je pense que ce genre d'événement aurait les plus grandes peines du monde à exister, ce qui montre d'ailleurs que cette culture du risque, cette culture de la peur du risque, c'est complètement érodé. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose de très important, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'envie. Parce que quand on connaît finalement le chemin, si on connaît le film, c'est un peu comme si on se laissait fait spolier. Et on a besoin du risque pour s'engager, pour créer, pour se dynamiser. Et c'est très intéressant cette émission, parce que pour une fois, on parle de quelque chose d'actualité, mais je pense que la nature a horreur du vide et la nature a horreur aussi du manque de risque. Et je pense que le risque va redevenir une nécessité absolue pour pouvoir continuer d'exister, parce que sans risque, il n'y a pas d'existence possible.
Oui, et de toute façon, de la première phrase du livre, c'est que le risque est consubstantiel à la vie et que rien de grand ne s'est jamais accompli sans prise de risque. Voilà. C'est ça la réalité, c'est ça en fait le substrat qui nous est donné à la naissance.
Est-ce que Dominique, c'est très intéressant parce qu'il dit si tous les chemins sont balisés, si on sait d'avance ce qui va se passer pour nous, et évidemment, ben on s'assied et
en fait, il n'y a plus d'exaltation de la vie, il n'y a plus ce champ de la vie qui nous permet finalement de dire, et on en parle beaucoup aussi dans le livre, que l'inconnu qui est devant nous, toujours, quoi que nous fassions, nul ne sait ce que sera demain. Cet inconnu ne doit pas être pris comme étant un risque négatif, mais comme au contraire une exaltation de punaise.
Une invitation.
C'est waouh, qu'est-ce qu'il va avoir de super bien demain ? Et d'avoir cet esprit positif, parce que le risque est consubstantiel à la vie, premièrement, nous empêche d'avoir peur, et donc de ne pas être gouverné par la peur, et deuxièmement, d'avoir toujours envie du lendemain qui nous attend.
Et même si on ne le connaît pas, et surtout d'ailleurs si on ne le connaît pas.
Merci Dominique, on retrouve Françoise qui nous appelle depuis Alès dans le Gard. Bonjour Françoise.
Oui,
bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour Monsieur Franceschi. Voilà, ben moi je voulais vous dire que je suis née avec un handicap et mon pronostic vital était même engagé. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné ben, le goût du risque et le goût de vivre. Mais en tout cas, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, pas par mes parents, mais par les médecins ou par les professeurs, à être découragée. Oui, tu ne vas pas y arriver, tu n'auras pas ton brevet, tu n'auras pas ton bac, tu es trop nul en maths. Et ben, résultat des courses, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac avec 30 points d'avance. Je suis assistante de direction trilingue. Je suis secrétaire en milieu médical. Je suis auxiliaire de.
Oui.
Non. Animatrice en milieu médicalisé. Donc, voilà. Tout ce
donc,
qui,
vous avez fait. Ce,
voilà, j'ai risqué tout ça. Pour vous donner deux exemples, vraiment qui ont failli me coûter, mais bon, c'est pas grave. Je suis partie, j'ai fait un BTS d'assistante de direction trilingue. Je suis partie, on devait faire un stage de préférence à l'étranger. Je suis partie en mauvais état à Barcelone. J'ai été rapatriée d'avion en avion parce que ben voilà parce que ça allait mal. Mais je regrette pas tout ça. Je suis allée aussi à Pompéi avec des cannes de rando parce que je marchais encore à l'époque. Mais je regrette pas tout ça. J'ai beaucoup voyagé aussi en Europe et je regrette pas d'avoir fait tout ça parce que ça a donné du sel à ma vie. Alors que si j'étais restée dans un environnement aseptisé ou athée, je sais pas si ça aurait eu le même goût. Et là, je terminerai ce qui donne du goût encore plus à ma vie là depuis quelques mois, depuis le mois d'avril. Alors ça peut servir aussi à vos auditeurs. J'étais sur Facebook et j'ai eu connaissance d'un groupe de philosophie, parce que c'était une de mes grandes passions aussi avec l'art, avec le cinéma. Et c'était une de mes grandes passions, la philosophie. Et ce groupe s'appelle le Fil Conducteur, Fil PHIL. Et c'est un groupe formidable, il y a des conférences, il y a des cafés philo.
D'accord, et
justement, en approfondissant tout ce que j'ai appris en terminale, et ce que disait votre invité, entre autres, j'ai approfondi le stoïcisme, donc les pensées de Marc Aurèle. Et chaque jour, je m'émerveille chaque jour davantage devant ce que je vis, même si c'est pas voilà.
Mais c'est formidable, pas... Françoise. C'est très important.
Oui, bravo.
De
en fait,
devant ce qu'on vit. Voilà.
En dépit, je résume ce que vous avez dit. En dépit de ce qu'on vous racontait du fait de votre handicap au tout début de votre vie, vous n'avez pas capitulé. Et à partir de là, le fait de ne pas capituler devant le discours dominant, ben nous incite et nous invite à faire davantage que les autres.
Et je voudrais dire que l'article 12, là, ils font pas les 10 commandements, eux, ils font les 12 commandements. À l'hiver de la vie, risquer le tout pour le tout en ne s'inquiétant de rien, il n'y a de toute façon plus grand chose à perdre. Et je pense que ceci devrait effectivement s'appliquer à beaucoup de gens qui n'ont, en fait, ils ne le savent pas, même beaucoup plus jeunes, même n'ont pas tellement de choses à perdre.
En fait,
c'est ça,
ne rien faire, c'est tout perdre. Et tenter, prendre les risques et vivre libre, on n'a pas grand-chose à perdre en réalité. Et tout à gagner.
Voilà. Alors c'est pour ça que les Français parlent aux Français et les Français parlent aux Français libres. Ne l'oubliez jamais et ne l'oublions jamais.
Merci beaucoup Monsieur Franceschi d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, Le goût du risque, une éloge de la vie riche, intense, joyeuse et engagée. C'est publié aux éditions Grasset. Demain, ce sera Alexis Poulain qui sera là de midi à 13h. André Bercoff, vous revenez demain à 13h avec Céline.
Absolument, et c'est vrai ce que me dit Thibaut Sadler. Franceschi parle aux Français, c'est pas trop mal.
Soyons modestes.
Vous serez là avec Céline Alonso à partir de 13h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain.
Avec usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com.